Aujourd'hui, donc, des éléments de biographie sur Francesco Guicciardini. Donc, Francesco Guicciardini, hein, les dates 1483, naissance à Florence, 1540. Il meurt en écrivant, en finissant d'écrire la Storia d'Italia, et sa vie, enfin, se confond à des moments importants avec l'histoire de Florence et plus globalement avec l'histoire de l'Italie, puisque une des grandes caractéristiques de Francesco Guicciardini, c'est précisément qu'il va faire, contrairement à l'habitude des cittadini, hein, des uomini da bene et florentins, il va faire une bonne partie de sa carrière politique hors de Florence, au service de la papauté, en l'occurrence des deux papes Médicis, Léon X et Clément VII, et donc en dehors de Florence. Hein. Donc, il est issu d'une grande famille florentine, hein, une grande famille florentine, riche, mais surtout importante par sa place politique. Hein, sa place politique dans la cité. Quand lui-même écrit un de ses premiers textes importants, hein, avec l'idée que la plupart de ses textes sont écrits voilà, pour lui-même et pour ses successeurs, pour ses parents et pour ses successeurs. En gros, on est sûr d'une seule chose, c'est que il voulait probablement, là, il voulait très probablement publier la Storia d'Italia. Les autres textes, c'est des textes vraiment de formation interne, hein, de formation interne à la famille et au réseau d'amitié et d'alliance de la famille. L'autre texte pour lequel, mais ça, on y reviendra un peu plus précisément en parlant bientôt, c'est le Dialogo del Reggimento di Firenze, et en tout cas, à certains moments. Hein, vous rappelez que dans un des proemi, dans une des rédactions des proemi, du proemio, il écrit la phrase potrebbe venire il tempo suo da pubblicarsi. Enfin voilà. Hein, donc sans doute. L'hypothèse, en tout cas, que ce texte-là pourrait être publié si les situations le permettent ou le requièrent, c'est sans doute le deuxième texte. Pour tous les autres, hein, pour tous les autres, évidemment, les ricordi qui l'accompagnent sur une longue période de gestation, hein, entre 1512 et 1530, les Storie Fiorentine, écrites donc en 1508-1509, pour les Cose Fiorentine, nouvelle tentative d'écrire l'histoire de Florence, là vers 1530, hein, pour tous ces textes-là, il n'y a pas de volonté de publier les textes, et la plupart de ces textes seront publiés. Enfin, tous ces textes sont publiés post-mortem, hein, mais certains très tardivement, c'est-à-dire la plupart sont publiés au XIXe siècle, hein, sont publiés avant le XIXe siècle uniquement. La Storia d'Italia, pareil pour la première fois en 1561, et les Ricordi qui sont publiés en France au XVIe siècle. Voilà. Les autres attendront. Le 19e siècle pour être édité. Voilà. Alors, cette longue parenthèse pour vous dire qu'au tout début de ces Storie Fiorentine, et donc de 1508-1509, il cite un de ses ancêtres, hein, qui était gonfalonier de justice à Florence en 1378, au moment du tumulto dei Ciompi. Hein. Donc, présence de la famille dans dans la vie politique florentine sur plusieurs siècles. Alors, le père de Francesco, Piero Guicciardini, personnage important de la vie politique, florentine, dont, et dont vous savez qu'il choisit de faire un des quatre interlocuteurs du dialogue del Reggimento di Firenze. De façon assez cum grano salis, enfin. Vous savez que c'est son père qui porte en gros à la fois gros, les connaissances philosophiques, les connaissances de la tradition philosophique. Le père était un ami de Marcile Ficin et du groupe des néo-platoniciens florentins. Et puis il le fait exprimer les thèses de Machiavel sur Rome. Alors c'est quelqu'un qui joue un rôle important, qui est présent dans les conseils restreints du régime des Médicis, qui est à plusieurs reprises ambassadeur de Florence, et en particulier, alors ça, Guicciardini le rappelle dans ses Mémoires di famiglia, il le rappelle, et c'est le dernier paragraphe des Mémoires di famiglia qu'il rédige, et il explique qu'en fait, si on avait écouté son père, eh bien, les guerres d'Italie n'auraient pas eu lieu, parce que son père était envoyé en 1494 comme ambassadeur à Milan auprès de Lodovico Sforza, et qu'il avait prévenu, il avait prévenu Pierre de Médicis que des problèmes graves étaient en train de se dérouler et qu'il fallait rétablir l'alliance forte, qui était l'axe de la politique florentine et donc de l'équilibre de l'Italie avant cette date, qui était l'axe Milan, Milan-Florence, axe qui avait été établi, comme vous vous en souvenez sans doute, par Côme l'Ancien. Évidemment, façon de dire que son père avait eu le nez creux, qu'il avait analysé à l'avance les dangers de la situation. Voilà. Un point important pour Piero Guicciardini, c'est que c'est quelqu'un qui, sans être savonarolien, n'est pas opposé au piano, ni n'est pas opposé à la politique savonarolienne. Et du coup, on comprend que toute une série de certaines des grandes références ou des grandes analyses de Savonarole passe chez son fils Francesco, et que Francesco Guicciardini connaît bien les positions savonaroliennes, qui dresse un portrait quand même très mesuré, plutôt favorable de Savonarole dans ses Storie Fiorentine, et que il établira une espèce de petit fascicule de notes sur les sermons, les textes de Savonarole, à partir des sermons et des textes de Savonarole disponibles dans des livres et dans des imprimés. Donc on possède des extraits savonaroliens établis, des notes sur les sermons de Savonarole établis par Francesco Guicciardini, sans doute dans le cadre de la préparation de la rédaction de la Storia d'Italia. Mais il y a un effet biographique de cette position d'intérêt vis-à-vis vis-à-vis des sermons et de la parole de frère Jérôme, c'est que Francesco ne prendra pas le chemin d'un parcours ecclésiastique, enfin, alors qu'il était, vu sa place dans la fratrie, c'est le troisième fils de Piero Guicciardini, il aurait été pratiquement normal qu'il prenne la carrière ecclésiastique, et il ne la prend pas en explicitant dans ses ricordances que son père avait été tout à fait réceptif au message contre la corruption du clergé de Savonarole, et que donc il lui avait déconseillé formellement de suivre cette carrière, alors que c'était une des possibilités. Alors, c'est pas cette carrière qui va prendre, mais une formation de juriste. Vous savez qu'il a une formation de juriste sur lequel on a des travaux, en particulier les travaux de Diego Qualioni et de Paolo Carta ont pu montrer sa formation de juriste, qu'il a suivi à Ferrare et à Padoue, entre 1500 et 1504. Formation auprès d'un maître, professeur de droit très important de l'époque, qui s'appelait Francesco Dei Cian. Apparaissait de façon assez nette dans ses formulations, dans sa façon de concevoir le lien entre règles et exceptions, etc. Alors, ce point-là sera développé très précisément par une série d'interventions de Paolo Carta, je le note simplement, mais sans le développer. Donc, il passe son doctorat en novembre 1505, et donc, à partir de là, il est avocat. Alors, l'autre point important dans ce parcours de formation, le fait d'être dans une famille comme ça, qui est dans la longue tradition politique florentine, au moins pratiquement sur deux siècles. Cette figure du père, Piero Guicciardini, et puis ce choix des études de droit plutôt que du parcours ecclésiastique, un dernier choix que là il fait en se détachant un peu des idées de son père, c'est que il prend pour femme Maria Salviati, Maria di Alamano Salviati, qu'il l'épouse en janvier 1507, et ce qui signifie qu'il se range de fait dans le camp des grandes familles oligarchiques florentines, qui sont en opposition ou au moins en contradiction assez nette avec la politique du gonfalonier à vie Piero Soderini. C'est une espèce de... Ça signifie vraiment se ranger du côté des de ces grandes familles oligarchique opposée à la politique de Pierre. Et son père, tout en étant dans ce groupe, enfin, hein, tout en étant très souvent en accord avec Alamanno Salviati, estime sans doute, ou en tout cas son fils croit que son père estimerait sans doute que c'est une décision dangereuse. Hein, et donc, il lui dit pas. Il lui dit qu'un an après, hein, pas un an, enfin plusieurs mois plus tard, hein, puisque. Non, non, enfin, plus d'un an après, pardon, puisqu'il l'épouse en janvier 1507 et ça n'est rendu public ce mariage que le 22 mai 1508. Alors qu'il est déjà, il s'est déjà marié religieusement avec Maria Salviati un an et demi avant. Voilà. Donc là, dans cette première période, hein, formation, puis il commence donc à exercer son métier d'avocat, hein, à partir de fin 1505, début 1506. Et puis, donc, là, il commence à rédiger des premiers textes, certains qui sont vraiment dans la tradition des marchands écrivains, hein, des ricordanze, là, pour le coup. Des notations sur des moments importants de sa vie, comme ça, de formation, son mariage, et des memorie di famiglia, là aussi du même genre, c'est-à-dire des éléments qu'il trouve dans les archives familiales ou dans les récits et qu'il met sur le papier. Hein. Là, c'est vraiment dans la tradition des marchands écrivains florentins. Hein. Ce qui est un peu moins évident, c'est cette rédaction assez rapidement, hein, puisque 1508, 1509, il rédige en partant de 1378, date où se déroule, comme nous le savons, le tumulte des Ciompi, mais aussi, hein, c'est dans la première phrase, essendo gonfaloniere di giustizia Luigi Guicciardini, hein, un premier ancêtre ayant des responsabilités politiques à Florence, et qui va jusqu'à 1509, date, comme vous le savez, de la reprise de Pise, hein, évidemment, malgré cet arc temporel assez vaste, se concentre sur la période 1494-1509, avec une langue qui est une langue assez différente de celle qu'on trouvera dans la Storia d'Italia, qui est encore une langue très florentine, hein, au sens où les expressions idiomatiques, les façons de dire oralisées, etc., sont encore très, très fréquentes dans ce texte, hein, alors qu'elles seront gommées dans le texte de la Storia d'Italia, qui lui sera écrit pour être rédigé, et pour lequel, pour chaque passage, il y a deux, trois, quatre, parfois jusqu'à six versions différentes, hein, qui montrent que la question de la langue et la question d'une langue pour l'écriture de l'histoire sera une vraie question pour lui à la fin de sa vie. Alors, un élément important dans sa formation, c'est donc sa nomination comme ambassadeur de la République auprès de Ferdinand le Catholique en Espagne. Hein. Alors, il est élu donc en octobre 1511. Normalement, il est trop petit pour y aller, donc faut vraiment faire il y a une décision de l'envoyer, bien qu'il n'ait pas 30 ans. Normalement, c'est une fonction qu'on peut avoir à partir du moment où on a 30 ans, et donc il finit par accepter, il hésite un peu, mais bon, il part donc de Florence en janvier 1512. Donc, à partir de mars, il est à la cour du roi. Voilà. Et là, il commence à être, à avoir de ces expériences de la grande politique, etc. Même si, évidemment, sa position est assez difficile. C'est-à-dire qu'en gros, il se demande assez souvent dans les lettres qu'il écrit, surtout à ses frères et à son père, s'il y a une possibilité. En plus, le temps qu'il faut pour que les nouvelles arrivent, c'est au moins un mois. Donc, c'est une chose qu'on. Donc, en fait, quand il a des informations sur quelque chose et qu'il est dit, qu'il essaye d'en tirer des choses auprès des conseillers du roi ou du roi lui-même, les choses ont déjà changé sur place. Enfin, non. Et vous savez que cette période-là, donc c'est 1512, vraiment la période décisive pour Florence, puisque pendant que lui est là-bas, les Médicis vont revenir à la tête de Florence avec les événements militaires qui se succèdent à la Sacque de Printemps, la victoire française à la Pyrrhus, qui voit la mort de Foy, etc., et le départ des Français pendant cette période. Donc il rentre à la fin 1513. Donc quand il rentre à Florence, là, non seulement les Médicis sont revenus et sont de nouveau les seigneurs de fait de la cité, mais le pape est devenu un Médicis, puisque Giovanni de Medici a été élu en février 1513 et a pris le nom de Léon X. Dernier élément vraiment comme ça de ce bouleversement, côté de ce bouleversement politique, il y a un bouleversement familial, puisque son père meurt là aussi en décembre 1513, avant même que lui soit revenu à Florence. Il est encore en voyage quand il apprend la mort de son père. Alors, là, très très vite, il est intégré dans les instances du pouvoir médicéen, là, il succède à son père dans un conseil restreint, qui est le conseil des 17. Il est élu très vite parmi l'Iorton, dans le conseil des Consiglio dell'Iorton, le conseil de la justice civile et des affaires intérieures. Il est élu dans une des signories. Voilà. Et donc il est proche des Médicis, et ce qui va se passer, c'est que on va lui proposer de jouer un rôle de gouverneur dans des villes de l'État ecclésiastique, et donc Léon X va lui proposer donc d'aller d'abord à Modène, gouverneur de la ville de Modène. Donc ça, c'est 1516. C'est un tournant important parce que, en gros, entre 1516, pendant 10 ans, là, entre 1516 et 1526, il va être, il va passer l'essentiel de son temps en dehors de Florence et en jouant le rôle d'un on pourrait le dire avec une petite pointe d'anachronisme, de haut fonctionnaire de l'État ecclésiastique. Hein? Donc, c'est-à-dire que là, hein, il avait une ligne là, qu'il a possible, une ligne de cursus honorum possible à l'intérieur de la cité, qu'il avait commencé en étant ambassadeur, puis en revenant, en étant dans les conseils restreints, en étant élu dans Consiglio degli Otto, puis Signoria, etc. Donc, le processus normal eût été qu'il resta dans ce chemin-là, c'est-à-dire hein, le chemin normal d'un rejeton d'une grande famille oligarchique. Et là, il y a vraiment quelque chose d'une espèce de choix, hein, de professionnalisation au sens strict, c'est-à-dire professionnalisation au sens où il touche un salaire. Tous un salaire pour être gouverneur, il négocie son salaire. On a tous ces éléments-là dans ses recordantes, etc. Et l'essentiel, du coup, l'essentiel de ses revenus va passer par cette professionnalisation politique. Alors que l'essentiel des revenus d'un membre d'une grande famille florentine, c'est les revenus voilà, d'un des métiers dans lequel est insérée la famille. Hein. Voilà. Donc, Modène, Reggio, la Romagne tout entière, etc. Alors, dans cette période-là, du point de vue de l'écriture, hein, donc il y a déjà la mise en place à partir de son ambassade en Espagne, de l'écriture de Ricordi qui commence à ce moment-là, hein, et qui va se poursuivre jusqu'en 1530. Donc il y a une série de textes, enfin, vous voyez bien là que ces Ricordi tels qu'on les a sont très différents de ce que j'ai appelé, parce que c'est comme ça qu'on l'a appelé, les Ricordanze, qui portent là vraiment sur les événements personnels qu'on note comme un espèce de pour mémoire, enfin qu'on note pour mémoire et pour que les descendants sachent qu'il s'est marié à telle date, qu'il a eu des enfants à telle date, et qu'il a fait une bonne affaire ou une mauvaise à tel moment, qu'un tel lui doit de l'argent, etc. Ça, c'est ces ricordanze. Dans ces ricordi, il n'y a pas du tout cette tonalité-là. Il y a vraiment des leçons, je crois qu'on pourrait le dire comme ça, qu'il tire de son expérience politique, de son expérience dans le gouvernement des hommes et des choses. Hein. Des tentatives de coaguler un des sens possibles de l'expérience. Hein. C'est un des lieux où s'écrit où s'écrivent les leçons de l'expérience des choses modernes, enfin, hein, pour reprendre la terminologie de Machiavel. Donc, les premiers ricordi, hein, je vous donne les éléments, là, en 1512, hein, c'est dans des cahiers qu'on appelle Quaderni 1 et Quaderno 1, Quaderno 2, hein, hein. Donc il commence à écrire de ces formulations-là. Il y a un deuxième état du texte. Donc là, il y en a 29, là. Hein, 29 ricordi. On peut traduire, je crois, c'est comme ça qu'on l'a traduit, nous, quand on a fait l'édition, mais je crois que ça, c'est juste de dire ricordi au sens les choses dont il faut se souvenir. Donc, traduction possible, en tout cas, est avertissement. Hein, avertissement. Donc, un deuxième recueil, mais dont on n'a pas l'autographe, hein, qui est un état antérieur à 1525, donc avec l'hypothèse que là, on ne sait pas la date, mais hein, c'est une espèce de récurrence, hein, cette écriture des records. Hein. On appelle la rédaction A du texte. Une rédaction B autographe écrite en 1528, hein, donc au début de la Seconde République, et au moment où Guy Chardin est encore à Florence et peut rester à Florence parce que le gonfalonier Niccolò Capponi est un modéré, hein, donc là il est encore en Florence. La dernière rédaction, qu'on appelle la rédaction C des Ricordi, est écrite en 1530, au moment où il est à Rome, parce que ce ne sont plus les modérés qui dirigent la République florentine, hein, mais les Arrabbiati, hein, les Arrabbiati. Vous savez, l'ont fait passer en procès, l'ont banni, etc. Et donc, on est passé du gonfalonier Capponi au gonfalonier Francesco Carducci, qui est là vraiment un ennemi assez farouche de Guicciardini, qui a jugé plus prudent de quitter Florence et d'aller à Rome. Et à Rome, là, il va écrire cette dernière version des Ricordi. Hein, cette dernière version. Alors, bon, après, évidemment, est-ce que on considère que, bon, comme c'est la dernière qu'il a écrite, voilà, que les autres se mettent derrière, mais que la version ultime, hein, c'est celle de 1530. Hein, donc, en général, on donne la version de 1530 et parfois, c'est là qu'on reconnaît les bonnes éditions, parfois on donne aussi les autres, hein, en tout cas la version B, et puis on donne les indications sur les versions antérieures. Il y a une édition critique des années 50 qui est celle de Spongano, qui est vraiment, malheureusement, évidemment, elle est épuisée depuis très longtemps, j'aurais du mal à la trouver. Mais je crois qu'il y a au moins une des éditions de poche qui redonne à peu près les éléments de l'édition Spongano. Voilà. Alors, donc, ça c'est quelque chose. Donc, pendant cette période, il va continuer à rédiger. L'autre chose importante qui se passe là, c'est que il va avoir sa première expérience. Sa première expérience militaire, hein, sa première expérience militaire en 1521. Voilà. En 1521, c'est une date importante aussi pour nous, parce que c'est la date des liens d'amitié, du coup des liens épistolaires fréquents entre Machiavel et lui. Hein, vous savez, à l'occasion de l'envoi de Machiavel en mai 1521 au chapitre général des frères mineurs, hein, donc des franciscains. Et là, voilà, vous savez que cette amitié naît sous le signe donc de une blague, enfin une semi-blague, que les deux hommes montent. Hein, avec un échange comme ça d'arbalétriers à cheval qui sont censés amener des plis secrets à Machiavel. Enfin, voilà. Donc, cette amitié dure jusqu'à la mort de Machiavel en 1527. Hein. Cette amitié, cet échange intellectuel, et puis le fait que Machiavel, à un moment donné, se met, en particulier dans la dernière période, hein, 1526-1527, là, se met un peu au service, enfin, de Francesco Guicciardini. Voilà. Alors, autre événement important, c'est pas un petit événement, au regard de l'histoire, c'est rien, mais au regard de nos textes et des échanges intellectuels, c'est important, cette date. Et puis, Guicciardini joue le rôle de... Il n'est pas lieutenant du pape, là, il est commissaire général des troupes pontificales pour cette espèce de guerre qui va se dérouler en Lombardie et qui voit s'opposer, à fin 1521, les Français et les Vénitiens, d'un côté, et puis de l'autre côté... les troupes espagnoles et pontificales. Et là, Francesco Guicciardini est donc le commissaire général des troupes pontificales, et c'est là qu'il connaît donc cette première expérience militaire, et qu'il rencontre Prospero Colonna, qui est le général enfin des troupes pontificales, et puis Giulio de' Medici, hein, qui est là comme légat du pape. Et Giulio de' Medici, c'est le futur Clément VII. Hein, et c'est une autre amitié, là, proprement politique, qui se noue à ce moment-là, hein, et qui fait que Guicciardini sera un des conseillers les plus écoutés de Giulio de' Medici, quand Giulio de' Medici sera le pape Clément VII. Hein? Alors, vous savez déjà que période très troublée, parce que les troupes espagnoles et pontificales prennent Milan. Mais le pape Léon X meurt le mois suivant, il meurt en décembre 1521. Et donc du coup, ça met évidemment du flou dans l'armée pontificale. Mais Guicciardini joue un rôle militaire non négligeable, hein, en empêchant les troupes françaises de reprendre Parme. Hein, et donc vous savez qu'on a une série de textes, dont un petit texte qui s'appelle « Relazione della difesa di Parma », où il raconte, hein, la façon dont il est arrivé à empêcher les Français à s'emparer à nouveau de Parme. De la même façon, et là, évidemment, le rôle principal n'échoit pas à Francesco Guicciardini, mais à Prospero Colonna, les Français échouent au printemps 1522 à reprendre Milan. Hein, et cet échec devant Milan est suivi d'une autre défaite française, à la bataille de la Bicocca, hein, en avril 1522. Voilà. Donc ça, c'est une expérience importante, et c'est au cours de cette expérience, hein, ça peut paraître étonnant, que au cours de cette expérience militaire, que, comme il nous le dit très clairement dans une des rédactions du Proemio, Francesco Guicciardini, donc en 1521, commence la rédaction du dialogue del Reggimento di Firenze. Hein? Vous savez, c'est dans la rédaction, la deuxième rédaction possible du poème. Hein? Avendole cominciato a scrivere a tempo di Leone, trovandomi per lui commissario generale nello esercito cesareo e suo nella guerra contro ai francesi. No, comunque, 1521, fin de l'automne. Automne. Alors, vous savez que entre les deux papes Médicis, il y a un pape flamand qui s'appelle Adrien, je ne sais plus son numéro, enfin bon, peu importe. Donc, qui est un ancien précepteur de Charles Quint et qui va rester un peu moins de 2 ans parce qu'il est élu en janvier 22 et qui meurt en septembre 23. Alors, Francesco Guicciardini n'est pas très content de la façon dont la papauté et les conseillers d'Adrien reprennent en main la haute administration de la curie et par voie de conséquence les gouverneurs, mais à la demande instante de Giulio de Medici, hein, et il reste à Reggio. Il reste à Reggio. À partir du moment où, précisément, Giulio succédera au pape Adrien en devenant Clément VII, eh bien, il va retrouver même plus que ses fonctions précédentes, puisqu'il va être nommé président de la Romagne en décembre 1523. Voilà. Alors, donc là, une période un peu comme ça de pause pendant le pontificat d'Adrien. Là, visiblement, il reprend en main, sans doute à ce moment-là, il y a toute une série d'éléments nouveaux, il reprend en main le dialogue del Reggimento di Firenze. Hein. Il semble bien qu'il y ait 3 moments d'écriture, 1521, là, 22-23, au moment où il y a cette espèce de pause, où il est dans... il reste à Reggio, parce que Giulio lui dit d'y rester, mais bon, il n'a pas de grande fonction, il n'a pas de grand salaire, etc. Et puis, il y aura une dernière rédaction, comme il nous le dit dans la même seconde rédaction du proème, hein, Leo finite ora, che per Clemente sono preposto al governo di tutte le città di Romagna. Hein? Donc, période qu'on est probablement 1525, même s'il est nommé à partir de début, enfin, il est nommé en décembre 1523, en fait. Voilà. Donc, là, il a vraiment toute la Romagne, là, il a un salaire... il a un bon salaire, il est content, enfin il dit l'utile, hein, honore, le titre, les possibilités, et utile, qui sont une espèce de comme ça, de couples, hein, qui sont un couple qui est toujours on trouve assez souvent dans les ricordi, plus encore dans les ricordanze, où la question de la négociation des outils, hein, est toujours présente. Onore et utile. Hein. Voilà. Donc le dernier point, le dernier grand tournant, enfin, voilà, c'est 25-27. Hein, enfin, là, vous savez que après la défaite française, Francesco Guicciardini est un de ceux qui pensent que il faut réagir, que si on ne réagit pas, la domination de Charles Quint sur l'Italie est certaine. Et donc c'est un des artisans de la Ligue de Cognac. Il a une fonction militaire extrêmement importante, puisqu'il est luogotenente du pape aux armées, et du coup il est parmi ceux qui ont une responsabilité historique dans la défaite de son camp, la défaite de son armée, et plus encore que la défaite, cette catastrophe au sens étymologique du terme, hein, que constitue le sac de Rome, la prise de Rome et le sac de Rome par les troupes impériales. Alors, vous savez que parallèlement, donc, les Médicis quittent Florence, la République du Grand Conseil est remise en fonction. Vous souvenez aussi qu'il y a deux temps dans cette nouvelle Seconde République, le temps des modérés, Capponi, et le temps des arrabbiati, hein, des enragés, Carducci et ses amis. Donc tant que les modérés sont au pouvoir à Florence, Guicciardini reste à Florence. C'est la période pendant laquelle, sachant ce qui est dit de lui, à savoir qu'il est responsable de l'échec des troupes pontificales, qu'il est responsable du sac de Rome, etc. Bon, qu'il est responsable aussi des exactions des troupes, etc. Bon, il écrit une série de textes importants, donc hein, qui sont des textes sur le modèle juridique, enfin. Hein. Une qui s'adresse à lui-même, qui est un consolatoria, et puis la double harangue de l'accusateur et du défenseur, hein. Accusatoria et defensoria, voilà, qui reprend et qui analyse l'ensemble des arguments des gens qui le critiquent, et ses réponses possibles. Voilà. Il va, une fois que les Arrabbiati prennent le dessus à Florence, il va être amené à quitter Florence, hein, à aller à Rome. Et là, donc, parce que, bon, non, c'est... Il sait que ça va mal se passer pour lui s'il reste, quoi. Hein. Et donc là, il y a un moment d'écriture important, cette espèce de otium, hein. Otium forcé, hein. Quitte les affaires pendant un moment. Et donc là, il va y avoir la dernière version qu'on connaît des ricordi. Il va y avoir une espèce de débauche de commentaires des discours de Machiavel, hein, qu'on appelle, là aussi, enfin, un titre qui n'est pas de lui, puisqu'il n'y a, il y a pas de titre de ses œuvres, hein, d'ailleurs même pas pour la Storia d'Italia. Hein. Bon, le titre de l'éditeur du 19e siècle, c'est Considerazioni sopra i discorsi de Niccolò Machiavelli, les considérations, voilà, hein, où il reprend toute une série de points essentiellement sur le gouvernement de Florence. Donc, on peut avoir avec nos propres interrogations. Hein, et puis, je vous dis, une nouvelle tentative de rédiger une histoire de Florence. Hein, de retrouver le texte qu'on retrouve, sera retrouvé qu'au XXe siècle, il n'est même pas publié au XIXe. Et là aussi, bon. Important, non pas parce que ça reste un texte inachevé, hein, mais intéressant parce que sans aucun doute là se mettent en place des méthodes de travail qui va systématiser dans l'écriture de la Storia d'Italia. Hein. Donc lecture systématique. Les chroniques et les histoires antérieures, recours aux archives de chaque fois que c'est possible, confrontation entre les sources diverses et interrogation à partir, hein, une espèce d'approche critique des sources, c'est-à-dire que quand il y a des divergences entre ces sources, entre les chroniques, il essaye de. En tout cas, il met en évidence les contradictions, il essaye de voir les argumentations pour une thèse ou pour une autre, etc. Hein, donc voilà. Donc ça, c'est, hein, toute cette période, la période à Rome, mais aussi la période pendant laquelle il est à peu près tranquille à Florence, à côté de Florence. Hein. Dans la période où Niccolò Capponi dirige la ville, quoi. Hein? Donc cette série de textes écrits à ce moment-là. Bon. Siège de Florence, chute de la République. Là, il joue un rôle vraiment important. Dans la reprise en main de la cité, c'est un de ceux qui revient à Florence pour remettre les choses en ordre, ce qui veut dire réprimer les Arrabbiati, réprimer les républicains radicaux, etc. Il est entre 1530 et 1534, il est nommé à nouveau gouverneur de Bologne par Clément VII et il reste à ce poste jusqu'à la mort de Clément VII en 1534. Et il reste pendant toute cette période un des conseillers importants, en particulier le conseiller juridique d'Alexandre de Médicis, hein, jusqu'à la mort d'Alexandre de Médicis, tué par Lorenzo de Medici, hein, Lorenzino, Lorenzaccio, en 1537. Vous savez que c'est lui, Francesco Guicciardini, qui rédigera la réponse juridique à la querela dei foruscitti, c'est-à-dire cette demande en justice auprès de Charles Quint de la part des républicains exilés qui se fonde sur le non-respect de la clause de sauvegarde de la liberté de Florence. Hein. C'est lui qui rédigeant là, un texte juridique, c'est-à-dire un concilium pro parte, hein, un texte dans lequel il s'exprime pour une des parties de ce procès, en l'occurrence, il défend les intérêts d'Alessandro de' Medici, et c'est dans ce concilium pro parte qu'il modifie, comme nous savons, le sens jusque-là double de la libertà fiorentine en développant la thèse sur laquelle le seul sens à prendre en compte de libertà est désormais celui de l'indépendance de la cité et que cette libertà n'a plus à prendre en compte la forme du gouvernement. Voilà. À la mort d'Alexandre, il fait partie de ceux qui sont favorables à la candidature donc de la branche du descendant de la branche cadette des Médicis, hein, Cosimo, le fils du condottiere Giovanni dalle Bandonere, hein, et donc il réussit à ce que le choix soit conforme à ce qu'il désire, mais hein, il constate assez vite que le jeune Côme, qui deviendra duc, puis grand duc de Toscane, ne compte pas du tout se laisser conseiller par ces grandes familles qui pensent qu'elles sont les égales de la famille de Médicis, hein, et donc il finit, enfin, hein, il finit son rôle politique actif, se retire dans sa propriété à la campagne, refuse une proposition du pape Paul III qui lui offrait un nouveau gouvernement dans les États pontificaux, et se consacre donc entre 1537 et 1540 à la rédaction de la Storia d'Italia, hein, qu'il avait commencé un peu avant, hein, il avait commencé à recueillir du matériel, à avoir l'hypothèse de la rédaction, quelque chose qui aurait d'ailleurs plutôt été au départ un récit de sa guerre, la guerre 1525-1527, hein, la guerre dont il a été l'artisan malheureux. Et c'est le processus d'écriture qui l'amène à penser que commencer avec Pavie, la Ligue de Cognac, etc., n'était pas la bonne façon de comprendre la période. Et c'est donc dans ce processus d'élaboration qui revient à ce qu'il désigne comme le départ, à savoir l'arrivée en 1494 des troupes françaises et le début de ce processus, hein, dont la guerre de 26-27 et le sac de Rome découlent. Hein. Là, il y a le processus même de l'écriture, hein, il y a une réflexion importante. Vous notez évidemment qu'elle est parallèle au processus qui l'amène à fixer la date de 1494 comme date de la diégèse du Dialogo del Regimento di Firenze. Hein. Donc, vraiment, l'hypothèse qu'il y a là une genèse, hein, un moment initial dont toute réflexion doit partir, à partir de laquelle il faut construire, il faut s'interroger, aussi bien dans le domaine donc des formes de gouvernement pour Florence que dans le domaine de la guerre et de la situation pour l'ensemble de l'Italie. Hein, remarquez que la Storia d'Italia l'amène à décentrer, plutôt à élargir son angle de vue, c'est-à-dire à comprendre. Donc il y a à la fois un questionnement là, supplémentaire qui est que on ne peut pas, dans la période considérée, on ne peut pas, au fond, faire la seule histoire de Florence. Hein. Il faut un angle d'attaque plus large, qui est l'Italie, et l'Italie comme enjeu historique. Hein. Donc, incontestablement, là, une réflexion sur la chronologie et sur le territoire considéré. Voilà. Donc voilà les éléments de biographie indispensables. Dans les prochaines séances, nous étudierons les caractéristiques du dialogue del Reggimento di Firenze.